Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Carton. Et dans ce podcast, nous revenons sur l'actualité NBA à la manière d'un match de notre ligue préférée avec 4 cartons de 12 minutes avec notre équipe de chroniqueurs de talent. Et autour de la table avec moi pour ce nouveau match, celui dont les cheveux feraient pâlir de jalousie la calvitie la plus célèbre de NBA. Et non, je ne parle pas de Caruso mais bien de Kevin Durant, Jérémy.
Salut tout le monde.
Celui qui est plus équipé que n'importe quel lascar du sud-ouest, un bon gros SO à Antoine alias Mads.
Salut tout le monde, équipe.
Comment ça va les gars?
Ça va et toi? Mais
ça va, ouais.
Ça va, je suis très heureux de vous retrouver après ces quelques semaines de répit qui nous ont permis de bien étudier les forces en présence dans la Ligue. Et quoi de mieux que de parler des forces en présence de la Ligue en présentant la meilleure franchise NBA cette saison. Et pour ceux qui vivent dans une grotte, nous parlons bien évidemment de Jazz de l'Utah. En tant que fanboy de cette franchise et grand admirateur de Donovan Mitchell, je tenterai tout de même de m'en tenir à mon rôle de commentateur, mais je vous préviens les gars, j'ai des arguments et je ne manquerai pas de vous bâcher à la manière d'un Rudy Gobert à chaque blasphème que vous sortirez. En tout cas, vous êtes prévenus. Donc entre réussite incandescente et défense de béton, nous allons accorder nos violons et attaquer ce premier carton avec un Jazz qui récite ses gammes depuis le début de la saison pour nous offrir la plus belle mélodie sur les parquets. 23-5 au moment où nous enregistrons, Utah est actuellement sur une série de 18 victoires sur ses 19 dernières rencontres. Adoubé par les plus grands à la manière de Steve Kerr ou même de Giannis récemment, le Jazz est sur un rythme de croisière qui ferait rougir les plus audacieux d'entre nous, car nous ne pouvons pas parler de la franchise de Salt Lake City sans parler du développement par les joueurs de Quinn Snyder, un jeu rapide basé sur le tir derrière la ligne extérieure et une défense de tous les instants. Véritable marque de fabrique depuis la création de la franchise, la défense est vraiment au cœur du Jazz, du jeu du Jazz, cette saison une nouvelle fois. Un collectif qui répond présent car d'un côté statistique tout est au vert, une moyenne de 42,3 points tentés par rencontre pour 16,7 marqués qui les place actuellement à la première place de la Ligue. À titre de comparaison, par exemple, les Rockets de 2018-2019 avec un Harden qui en prenait énormément tentaient en moyenne 45,4 par match, donc ils sont vraiment sur les mêmes bases. Avec le quatrième offensive rating avec 117 et le deuxième defensive rating avec 107,5, tous ces ratings font de Utah la première franchise et la franchise surtout qui est le plus à craindre depuis le début de la saison. Donc je vais me tourner vers mes camarades du jour et je vais vous poser la question et j'attaque avec toi Jérémy. Comment est-ce que tu qualifierais le jeu de Utah depuis le début de la saison?
Ben, sincèrement, c'est je pense une des équipes que j'ai le plus vu jouer cette saison et c'est magnifique, c'est super plaisant à voir. Moi qui à la base... Je suis un amoureux du Spurs Basketball de 2014. C'est peut-être un des jeux qui se rapproche le plus, qui ressemble le plus à ça en tout cas. C'est collectif, c'est super beau à voir. En tout cas, c'est une des plus belles équipes à avoir joué cette saison, je trouve.
C'est vrai, et comme tu l'abordais très bien, y a un jeu en fait, et Quinn Snyder avait d'ailleurs été l'un des assistants de Greg Popovich. Donc forcément, il y a peut-être un petit truc qui transparaît. Toi, Mads, est-ce que tu es du même avis que Jérémy? Tu trouves que le Jazz produit le meilleur jeu depuis le début de la saison?
Ah oui, complètement. Moi, je suis complètement sous le charme de cette équipe cette année. C'est vrai qu'en début de saison, ça se tirait un peu la bourre de mon point de vue, en tout cas dans le jeu que j'appréciais avec Denver. Mais là, force est de constater que vraiment le jeu est léché, ça joue collectif, c'est... Les mecs, on voit que les mecs kiffent jouer ensemble et ça se ressent. Enfin, c'est hyper plaisant.
Ouais, c'est vrai qu'on les avait un peu laissés sur une période de doute à l'issue de la saison dernière. Enfin, en tout cas, au moment où la ligue avait suspendu la saison, puisque on sait qu'il y avait eu des histoires entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert, et on peut pas aborder le Jazz cette saison sans faire un coup d'œil rapide dans ce qui s'est passé notamment à l'intersaison avec la re-signature de ces deux stars avec Donovan Mitchell d'un côté et Rudy Gobert de l'autre avec des contrats max, des contrats qui pour beaucoup d'insiders et de journalistes avaient été jugés un peu irresponsables à la vue des contrats, mais après quelques semaines de compétition voire quelques mois, eh ben, chacun ravale sa fierté devant chaque apparition du Jazz et il n'en déplaise à un certain Shaquille O'Neal que Donovan Mitchell avait littéralement mis dans sa poche depuis. C'est vrai que voilà, on est tous un peu bouche bée devant le jeu proposé par le Jazz. Je te laisse la balle encore, Matt. Est-ce que tu penses qu'on voit l'aboutissement du projet du Jazz depuis, en tout cas cette saison, depuis le lancement avec le projet Quinn Snyder?
L'aboutissement, je ne sais pas et j'espère pas pour eux et pour les fans du Jazz, parce que ça voudrait dire qu'on est à l'apogée de leur jeu et il faut toujours essayer de voir plus loin. Mais c'est vrai que là, c'est indéniable que ça fonctionne, que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est léché, les rouages sont bien entre eux, ça joue collectif, il y a des forces à l'intérieur, des forces à l'extérieur, c'est équilibré, autant défensivement qu'offensivement, comme tu l'as dit avec les ratings. Je pense qu'ils peuvent aller plus loin et c'est ce qu'on attend d'eux, parce que de toute façon, l'aboutissement, ce sera le titre, si c'est ce qu'ils visent. Donc on n'y est pas encore, mais en tout cas, on est sur la bonne voie, quoi.
C'est vrai que, comme tu dis, on est sur la bonne voie. Il y a toujours cette incertitude qui plane, bien sûr, avec la post-season, avec ces playoffs. Pour toi, Jérémy, est-ce que l'équipe en a encore sous le pied pour passer un cap ?
Alors voilà, moi, c'est une des interrogations que je me pose, justement, par rapport à Utah, c'est par rapport aux playoffs. Là, pour l'instant, ils roulent sur tout le monde en saison régulière, quasiment. Ils ont battu Philadelphie cette semaine-là.
Qui était l'un maintenant, des plus beaux matchs d'ailleurs depuis le début de la saison. Ouais. Je vous invite tous à aller le regarder.
Il leur reste aussi maintenant, ils ont un back-to-back face aux Clippers. Là, les Lakers qui arrivent dans 2 jours aussi. Donc voilà, on va savoir si c'est vraiment les cadors et s'ils peuvent tenir tête aux cadors de la Ligue, aux autres cadors de la Ligue. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est, tu as parlé vite fait des playoffs. Est-ce qu'ils sont capables de battre, par exemple, les Lakers en 4 matchs, 4 fois de suite, est-ce qu'ils sont capables d'aller battre sur une série? Ça, je me pose la question. On sait que Utah, c'est une équipe qui a ces dernières années, qui a assez bien marché en saison régulière, mais maintenant on ne sait pas si ils ont toujours buté un peu en playoff face aux grosses équipes, et là ça a l'air d'être la saison ou jamais, ou en tout cas ça a l'air d'être une des meilleures saisons pour aller le plus loin possible et aller chercher le titre cette saison, quoi. Je pense que c'est cette saison ou jamais, en tout cas. Ouais, c'est l'objectif. Voilà.
Ouais, c'est vrai qu'il faut forcément avoir cet objectif. Ils en avaient parlé, Donovan Mitchell en avait parlé, Rudy Gobert en avait parlé, et également Mike Conley, qui est d'ailleurs passé récemment dans le podcast du Vosges, un podcast que je vous invite à aller écouter parce que c'est très intéressant sur la manière que Mike Conley a de revenir. Il revient sur l'entente entre les joueurs qui est actuellement au beau fixe, et il revient aussi sur la position du meneur sur les transferts des joueurs et la déstabilisation que peut apporter le départ d'une franchise, enfin en tout cas les arrivées, les départs, tout ça. Et c'est vrai que le Jazz a eu très peu de mouvements à l'intersaison, en tout cas la dernière intersaison et depuis le début de la saison, avec l'arrivée seulement de certains rookies et le retour surtout de Derek Favors après un passage loin de Salt Lake. Est-ce qu'on peut dire que vu que l'intersaison a été extrêmement courte, les camps d'entraînement étaient très raccourcis, Mats, est-ce que tu penses que ça donne un véritable avantage au Jazz qui garde en fait cette même ossature de joueurs et cette même dynamique vis-à-vis de la saison dernière?
C'est un choix pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au podcast avec Mike Conley. C'est vrai que lui est bien placé pour parler de stabilité, parce que bon, il est arrivé l'année dernière et après des années passées à Memphis. Il n'est jamais vraiment rentré dans sa saison l'année dernière, si ce n'est un petit peu dans la bulle quelques matchs. Mais et du coup, cette stabilité, c'est un choix. De toute façon, tu as des équipes comme Brooklyn qui changent un petit peu du tout au tout. Et tu as des équipes comme Utah qui prennent la stabilité. Pour l'instant, ça fonctionne. Mais je ne pense pas que ce soit c'est pas aussi simple que ça fonctionne toujours, ou ça dépend du contexte, c'est aussi la conjoncture du marché. Ils avaient deux prolongations importantes et logiques à faire avec des joueurs qu'ils avaient draftés. Donc pour l'instant ça leur réussit et ils ont une belle armature pour avoir une fenêtre sur quelques années, en tout cas.
Pour appuyer ce que dit Matt, justement, par rapport à cette stabilité, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, Rudy Gobert, c'est sa 8e saison à Utah. Joe Ingles, c'est sa 7e saison. Derek Favors, lui, c'est sa 10e. Des mecs comme Royce O'Neal, par exemple, c'est sa 4e année, là, il a fait 4 ans à Utah. Ouais, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donovan Mitchell, pareil, je sais pas si c'est sa combienième, mais c'est sa troisième, non?
Troisième, ouais. Même un Clarkson qui avait l'habitude de Valdanger droite à gauche a l'air de se poser, là.
Et du coup, en fait, ces mecs-là, aujourd'hui, c'est les cadres de l'équipe. C'est ceux qui ont le plus d'importance dans l'équipe. Bon, Donovan Mitchell, ça fait moins longtemps qu'il est là, mais c'est un talent pur. Donc, c'est un peu normal. Mais par exemple, Rudy Gobert, ça fait 8 ans. C'est un pur produit de Utah en NBA, en fait. Donc, c'est un projet sur le long terme. C'est un projet qu'ils ont construit, j'ai l'impression, depuis quelques années. Et ça prend vraiment forme. Et ça porte ses fruits cette saison-là, en tout cas.
Justement, pour vraiment corroborer ce que tu dis, et vraiment si on s'intéresse à un plan individuel, on voit un joueur comme Donovan Mitchell, qui est un peu, je trouve, et on avait eu d'ailleurs un débat avec Matt sur Twitter, enfin un débat en tout cas, on avait eu un début de discussion, moi je trouve que Donovan Mitchell est vraiment l'un des joueurs les plus sous-cotés de la Ligue. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie d'un petit marché qui est Utah. Forcément, il y a moins de visibilité, et je pense que Utah reste un peu ce genre de franchise que les gens sur lesquels les gens ne vont pas cliquer, même quand ils étaient quatrième la saison dernière, très peu de gens parlaient de Utah. Et en fait, Donovan Mitchell, il a typiquement le genre de jeu pour ce genre d'équipe, c'est-à-dire que c'est pas un joueur qui va essayer de briller individuellement, qui va essayer de tout scorer, et en fait il est vraiment altruiste dans son jeu, et c'est ce qui le rend aussi très très fort. C'est parce que certes il va pas beaucoup marquer, donc là on le voit depuis le début de sa carrière, il tourne à environ 24 points de moyenne.
En trois saisons, il marque quand même pas mal.
Non, mais je veux dire, il marque pas mal, mais en fait, il marque, on va dire, il se met à marquer que quand l'équipe a vraiment besoin. Et c'est ça qui est hyper intéressant sur le jeu de Donovan Mitchell, c'est que quand l'équipe ne va pas bien, eh ben, il essaye de step up. Et en tout cas, depuis deux saisons, ça arrive régulièrement que sur le premier quart-temps, voire le début du deuxième, il s'efface complètement, c'est-à-dire qu'il laisse ses tickets de shoot à ses copains. Et dès que l'équipe commence à avoir un peu de mal, et ben lui ensuite il arrive en second couteau, on va dire en seconde lame, pour faire du mal aux défenses adverses. Et c'est là où je trouve il est très très fort, c'est dans cette adaptation qu'il a. Et je trouve aussi que actuellement il est dans un rythme, en étant la meilleure franchise de la ligue, où on devrait le voir un peu plus cité dans la course au MVP.
Alors moi je me permets de...
Bien sûr.
D'assombrir entre guillemets tes propos, je trouverai plus le terme, mais ça fait pas c'est pas non plus depuis qu'il a été drafté que c'est un mec collectif. Cette année ça tourne bien, il a les joueurs autour pour jouer collectif, et je pense qu'il y a aussi une question de d'ego. Et quand on regarde l'effectif du Jazz, t'as pas de tête brûlée, t'as des mecs comme Joe Ingles, Bogdanovic, Gobert, même Conley, c'est pas des gros égos. Celui qui peut s'en rapprocher le plus, ça serait Donovan Mitchell. Et Donovan Mitchell, moi, sa saison rookie, sophomore, cette année, je suis d'accord avec toi, il partage bien la gonfle, mais j'avais peur que ça soit un feu follet qui devienne très très rapidement un croqueur, quoi. Donc c'est pas, je trouve que c'est pas non plus depuis deux saisons que c'est évident qu'il joue collectif, qu'il
step. Non, mais regarde, si on regarde juste son usage rating, par exemple, depuis le début de sa carrière, il est à 30%, là, sa saison rookie, il est à 29-1, et là, actuellement, il est à 31-2, donc il y a une petite évolution, mais c'est pas non plus quelqu'un qui va croquer des ballons tout le temps. Et c'est pareil, on le voit en son pourcentage au tir, bah, il est quand même assez raisonnable, il tourne à les 44% à peu près.
Ouais, mais ce qui lui manque, c'est la régularité quand même. Il lui manque cette régularité. Pour les joueurs de TTFL, Donovan Mitchell s'arrête à un spot où une carotte peut arriver à tout moment. Beaucoup plus souvent que les autres superstars, en tout cas. Pour répondre à ton côté d'un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue, moi je trouve qu'il est très bien coté. Le mec, il a déjà sa signature chez Adidas, il vend des maillots, il est bien mis en avant par l'NBA, il est déjà All-Star. Enfin, voilà, il va pas être MVP au bout de sa deuxième saison, mon petit Paul, hein, donc je sais que tu l'aimes bien, mais moi je le trouve très très bien coté.
Ouais, je comprends. Après, si on s'éloigne un peu de Donovan Mitchell et on part du côté de Rudy Gobert, où là j'aimerais quand même qu'on puisse en parler un petit peu. Là encore, il a été énormément décrié, car trop souvent on regarde le basket juste par la colonne des statistiques, des points marqués. Et c'est vrai que Rudy Gobert n'est pas à son avantage forcément sur ce plan statistique, mais il a toujours ce côté hyper défensif qui fait du bien au Jazz. Je trouve qu'il s'est énormément amélioré sur sa prise de décision et son shooting. Jérémy, est-ce que tu penses que Rudy Gobert, cette saison, est lui aussi en train de faire taire les critiques qu'on avait surtout entendues l'année dernière et bien sûr depuis la signature de son contrat?
Ouais, carrément. Bah, déjà, quand on voit le jeu, en fait, quand on regarde un match, le jeu tourne tout autour de lui quasiment. Il ne se passe pas une seule phase offensive sans qu'il touche le ballon au moins une fois. Donc, il est utilisé en défense. Bon, ça reste le défenseur qu'on connaît, un des meilleurs défenseurs de la Ligue, voire peut-être le meilleur défenseur, c'est un débat. Mais bah, je trouve qu'en attaque, il apporte encore quelque chose, mais pas encore assez à mon goût. Et en fait, je pense que ce n'est pas forcément de sa faute à lui, c'est que je trouve qu'on ne lui donne pas assez le ballon. J'ai juste un tout petit exemple. On parlait tout à l'heure du match Philadelphie-Utah. Pendant le premier quart-temps, avant qu'il sorte, donc il a joué à peu près 5 minutes, il a touché 3 ballons, on lui a donné 3 fois le ballon dans la raquette, et sur ces 3 fois, il provoque 2 fautes, et il met 4 points. Donc voilà, avec seulement 3 ballons dans la raquette, en 5 minutes. Je pense qu'après, vous me direz, il n'y avait pas Embiid, mais c'est quand même...
Oui, et puis ça dépend de l'action aussi.
Ouais, mais je trouve qu'on ne lui donne pas assez le ballon, offensivement. Combien de fois, en regardant le Jazz, je me dis, là, Gobert est tout seul dans la raquette, mais on le regarde pas en fait. Pourtant, il prend de la place. Et c'est peut-être là aussi un axe de progression de Donovan Mitchell. On voit qu'il a 5 passes décisives de moyenne par match cette saison. Je pense qu'il peut même quasiment gratter une passe de plus à chaque match en regardant peut-être plus Rudy Gobert, etc. Donc, je pense que c'est justement, si on doit nuancer un peu sur le Utah, c'est peut-être un axe de progression.
Et pour corroborer en plus ce point, j'ai juste fait un petit truc j'ai regardé un petit peu les statistiques un peu plus avancées. Quand Rudy Gobert est sur le terrain, le rating défensif de Utah est à 100,5. C'est le quatrième meilleur rating défensif de la ligue et c'est également le deuxième meilleur pivot. Et quand on regarde en fait la différence entre le nombre de points marqués et le nombre de points encaissés, le rating est là de 23,9. Donc c'est-à-dire que Rudy Gobert apporte énormément de points à l'équipe quand il est sur le terrain. Il défend énormément, c'est celui qui défend le plus de tirs dans toute la ligue. Il est à 18,1 par match quand on sait qu'une équipe en prend en moyenne 80-90 à peu près. Donc c'est absolument considérable. Et c'est vrai qu'on pourrait passer énormément de temps à détailler le jeu du Jazz, parce qu'on n'a pas parlé de... Vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais Joe Ingles, Royce O'Neal, et surtout Jordan Clarkson qui est...
Bogdanovic aussi.
Bogdanovic fait une saison un peu plus mitigée. Mais Jordan Clarkson, il est dans la course au sixième homme de l'année. Et s'il ne le remporte pas cette saison, c'est absolument, absolument un blasphème de la part de la Ligue. En tout cas, c'est vrai que le Jazz est actuellement dans une forme exceptionnelle. Premier des power rankings, premier de la conférence Ouest. Ils viennent de battre le premier de la conférence Est. Jérémy, tu le mentionnais tout à l'heure, il y a 3 matchs à venir contre les 2 équipes de Los Angeles, donc ça va être très intéressant de voir aussi ces oppositions et forcément peut-être le gap qu'ils ont réussi à combler entre ces deux franchises, avec les 2 franchises de Los Angeles. Donc en tout cas, on va être très intéressé à l'évolution du Jazz et peut-être qu'on pourra se retrouver pour les finales NBA avec un Jazz. En tout cas, j'aurai le maillot de Donovan Mitchell sur les épaules.
Et moi, je n'aurai pas celui d'Andy Gobert.
Le buzzer du premier quart-temps retentit. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette première partie du 7e épisode. Je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux de l'Analyspe pour nous donner votre avis sur le début de saison du Jazz. Rendez-vous également sur notre site l'analyste.fr. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour le 2e quart-temps. Bonne journée à vous. Salut!